les par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités. Hélène Denis au micro en ce 23 novembre 2017. En manchette, victime d'une agression dans un autobus, la STM refuse de l'indemniser. Tolérance zéro au volant pour les consommateurs de cannabis. Remise de 1 million de dollars à la Fondation des maladies de l'œil. Syndrome de Rett, des papas se mettent à nu face au handicap. Nager avec des dauphins virtuels, une thérapie bien réelle aux Pays-Bas. Et en entrevue, je reçois Stéphanie Tremblay, agente de communication pour le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, et Stéphane Levac, directeur de l'entreprise adaptée CETAL. Victime d'une agression dans un autobus, la STM refuse de l'indemniser. C'est dans le Journal de Montréal, un homme handicapé qui a été attaqué dans un véhicule de transport adapté de la STM en juillet dernier ne sera pas indemnisé pour les pertes matérielles qu'il a subies. Pierre Legault a vu son fauteuil roulant être abîmé et ses lunettes être cassées. On est venu me chercher chez mon médecin à Dorval. Une femme qui était assise en avant a totalement perdu la carte, raconte la victime en entrevue avec TVA Nouvelles. Elle frappait partout, elle se mordait, elle frappait les personnes, elle m'a frappé dans le visage, elle a cassé mes lunettes de soleil, mon joystick, la manette de contrôle de son fauteuil roulant, qui a coûté 900 $ à faire réparer. Pierre Legault précise qu'il a fait une demande d'indemnisation à la STM, qu'il a rempli tous les formulaires qu'on lui a demandés, mais on refuse de l'indemniser. Ils me disent maintenant que ce n'est plus de leur trouble, qu'ils ne payent plus là-dessus et que ce n'est pas leur problème, moi je suis prêt avec ça. Et ça date du 28 juillet, là où on est rendu en novembre, détaille M. Legault. Là, on est rendu en novembre, détaille M. Legault, dont les moyens financiers sont limités. Même s'il a perdu confiance, il n'a pas le choix d'emprunter le transport adapté pour se déplacer. Et il évalue ses recours et songe à mettre en demeure la société de transport. La STM a décliné toute demande d'entrevue. Elle se dégage de toute responsabilité parce que l'altercation est survenue entre deux usagers. Sur Radio-Canada.ca, Québec a déposé jeudi dernier son projet de loi 157 encadrant la légalisation du cannabis. Il prévoit notamment la vente dès juillet prochain du cannabis dans un réseau de succursales lié à la Société des alcools du Québec, la SAC. Il sera aussi interdit aux particuliers d'en cultiver et pour la conduite automobile, ce sera tolérance zéro. Dans le texte présenté à l'Assemblée nationale par la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, Québec, fixe à 18 ans l'âge légal pour consommer de la marijuana. Les mesures proposées ont pour objectif de limiter les méfaits et les risques liés à l'usage de cette substance, a déclaré la ministre Charlebois en conférence de presse en précisant que le gouvernement aurait préféré obtenir un délai plus long avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le cannabis. Les experts ont recommandé au gouvernement québécois d'être plus prudent et restrictif au début de la légalisation afin d'évaluer le comportement de la population. « On ne souhaite pas agrandir le marché du cannabis », poursuit-elle. « On veut que ceux qui utilisent déjà le cannabis viennent sur le marché licite. En ce qui a trait à la sécurité routière, il sera interdit à tous les conducteurs de consommer de la marijuana au volant. Et ce sera tolérance zéro en ce qui a trait à la présence de cannabis dans l'organisme des conducteurs interceptés. La publicité sur les produits du cannabis sera permise, mais étroitement encadrée. La limite de possession individuelle sera quant à elle de 150 grammes par personne à la maison, mais les gens ne pourront pas se balader dans des lieux publics avec plus de 30 grammes en poche. We'll be right back. Et au bout du fil, Stéphanie Tremblay, agente de communication pour le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, pour parler d'un mouvement de solidarité pour lutter contre la violence sexuelle. Bonjour, Madame Tremblay.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, vous lancez un mouvement de solidarité. En quoi consiste-t-il exactement?
Oui, en fait, c'est que suite au mouvement de dévoilement, là, avec le mot « clic, moi aussi », on voulait pas que la poussière tombe, et on se disait, bon, les victimes ont brisé les chaînes du silence, maintenant, créons une grande chaîne de solidarité, et c'est là qu'est venue l'idée d'accrocher des chaînes de trombone à nos vêtements, vraiment pour symboliser là cet engagement-là dans la lutte aux agressions sexuelles. On sait que ça fait plusieurs automnes, que vraiment les agressions à caractère sexuel font les manchettes, et plusieurs événements qui encouragent
chaque jour
les victimes à porter plainte, tout à fait, chaque jour. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment créer un grand mouvement pour susciter encore des discussions, que tout ça ne retombe pas encore dans le silence, et qu'on montre là, vraiment notre engagement dans cette lutte aux violences sexuelles-là, parce qu'il faut continuer la lutte. Il ne suffit pas de mots-clics pour enrayer ce phénomène-là. Il faut prendre action. Et sur notre site Internet, là, tout est là pour justement prendre action. Puis il y a vraiment des idées de choses qu'on peut faire concrètement comme citoyen, citoyenne, pour lutter contre les violences sexuelles.
Oui, absolument. Puis on entend parler beaucoup des CALAC ces dernières semaines. Oui. Vous faites partie de l'actualité. Alors, j'imagine que vous êtes très occupée. Vous en avez plein les bras avec cette vague de dénonciation d'agressions sexuelles.
Ah, tout à fait. Écoutez, on parle régulièrement là avec nos membres. Donc, un peu partout au Québec, et je dirais qu'un peu partout, là, c'est la folie, là. Donc, les intervenantes ont vraiment de la difficulté à répondre à toutes les demandes, et c'est extrêmement préoccupant pour nous. On a eu des fonds d'urgence qui ont été déversés dans tous nos centres dernièrement. Donc, ça va vraiment donner un coup de main pour être capable d'engager de nouvelles intervenantes qui vont pouvoir répondre, là, vraiment cette augmentation des demandes-là. Mais vous savez, c'est le manque de ressources auquel on fait face actuellement, finalement, il n'est pas nouveau, là. Donc, ça fait longtemps qu'on demande au gouvernement de rehausser notre financement. Ça fait plus de 10 ans là, qu'on n'a pas eu de nouvel argent dans notre réseau. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Il y avait déjà des listes d'attente. Il y a 10 ans, ça ne fait qu'augmenter, parce que, bon, on parle de plus en plus de ces phénomènes-là. On encourage les victimes à aller chercher. C'est extrêmement important de leur offrir une réponse adéquate, et c'est ce que les CALAC font. Donc, on va vraiment répondre aux besoins des victimes, des survivantes, mais malheureusement, on n'a pas les ressources là, pour... nos ressources sont insuffisantes, en fait, là, pour répondre rapidement aux demandes des survivantes. On est extrêmement préoccupés de cette situation-là.
Mais avec cette vague de dénonciation d'agressions sexuelles, on sent qu'il y a une sensibilisation au point de vue gouvernemental chez les membres du gouvernement.
Oui.
Est-ce que vous sentez cela de façon concrète avec de l'argent qui a été annoncé ou...
Bien, c'est certain qu'on était très encouragés quand la ministre David et la ministre Charlebois ont annoncé le fonds d'urgence suite justement à cette vague de dévoilement-là, là, avec le mot-clic, moi aussi. Mais c'est certain que c'est pas suffisant. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a quand même une volonté politique actuellement, notamment de la part de la ministre David, à vraiment là, soutenir les victimes, soutenir adéquatement les ressources.
Et le mouvement que vous lancez de solidarité pour lutter contre la violence sexuelle, est-ce que vous sentez aussi que les membres du gouvernement vous suivent là-dedans?
Bien, malheureusement, c'est ça. C'est que la ministre arrive va vraiment semble soutenir nos ressources, semble soutenir les victimes d'agressions sexuelles, mais on a vu peu de représentants, représentantes au gouvernement qui ont porté cette chaîne de trombone-là. Donc, ils n'affichent pas nécessairement publiquement leur engagement dans la lutte aux agressions sexuelles. Donc, c'est certain que pour nous, c'est un peu préoccupant. Ceci dit, on sait qu'il y a plusieurs organismes qui soutiennent ce mouvement-là et qui participent activement à des associations étudiantes, des organismes communautaires, des entreprises également, qui ont des syndicats qui participent au mouvement, mais malheureusement, on s'attendait avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité dernièrement et les annonces qui ont été faites par le gouvernement, on s'attendait à voir des chaînes de trombone à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Mais moi, c'est la première fois, je fais partie des médias, puis c'est la première fois que j'entends parler de cette chaîne de trombone-là.
Ben malheureusement, c'est ça. Je pense que les gens n'ont pas assez parlé. Pourtant, hein, c'est justement ce qu'on souhaitait créer. C'est-à-dire que bon, il y a eu toute la vague de dévoilement et souvent c'est ça, ça tombe dans l'oubli. Hein, oui. C'est un peu ce qu'on constate. Et donc l'idée c'était vraiment que ça retombe pas dans l'oubli. Donc vraiment de garder ce sujet-là, garder qu'on continue de parler du phénomène des agressions à caractère sexuel. Et malheureusement, c'est pas le cas, mais ça démontre vraiment encore le même phénomène qu'on a vu les années précédentes. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de dénonciations et après ça, bon, ça retombe un peu dans l'oubli.
Mais il faudrait pas, Mme Tremblay, je dois vous arrêter, mais si on est intéressé justement à faire partie du mouvement, à accrocher une chaîne de trombone à nos vêtements, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède?
Ben écoutez, vous prenez des trombones hein, un peu partout. On en a tous et toutes, hein, partout, dans nos bureaux, un peu n'importe où. Donc, on accroche ça à nos vêtements. Puis, vous pouvez visiter notre site Internet, là, www.rqcalax.qc.ca. Il y a plusieurs indications. Là, il y a une déclaration de solidarité qui est accessible sur ce site-là. Et donc, en accrochant les trombones à nos vêtements, ça peut être un manteau, un sac hein, pour s'assurer qu'on l'a toujours sur nous et qu'on affiche toujours cet engagement-là. Puis, en accrochant c'est ça, cette chaîne de trombone-là, bon, on adhère à la déclaration de solidarité qui est sur notre site Internet. Et évidemment, on peut soutenir notre CALAX local, hein, du militantisme du bénévolat qui peut être fait dans ces organismes-là. Donc, c'est une manière hein, de soutenir le mouvement-là.
Stéphanie Tremblay, merci pour votre engagement, agent de communication pour le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Et puis, on va participer au mouvement. Et j'espère que ce sera entendu partout et par ceux qui ont du pouvoir aussi. Merci.
Oui, exactement.
Au plaisir.
Merci de cette tribune. Au revoir.
Au revoir. Dans le Journal de Québec, remise de 1 million à la Fondation des maladies de l'œil, l'homme d'affaires non-voyant Gabriel Couture a accepté d'agir à titre de président d'honneur du spectacle bénéfice de la Fondation des maladies de l'œil. À ce titre, celui qui est à la tête du groupe financier Stratège est parvenu à réunir 1 million de dollars, un don majeur qui sera entièrement consacré au financement de projets liés à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Et il remettra le précieux chèque au Fonds de recherche québécois en santé à l'issue du spectacle bénéfice offert par l'humoriste Martin Matt au Capitole de Québec le mardi 21 novembre. Alors, le spectacle a eu lieu puisque nous sommes aujourd'hui le 23. Selon des rapports d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, la DMLA serait la première cause de malvoyance dans les pays industrialisés chez les adultes de 50 ou plus et toucherait de plus en plus de personnes. La voix de M. Couture a eu une portée toute particulière au cours de la campagne qu'il a menée puisqu'elle a lui-même perdu la vue en raison d'une rétinite pigmentaire. À l'occasion du gala de la Fondation, Martin Matt a présenté son nouveau spectacle en primeur. Il reviendra à Québec pour présenter plus largement ses spectacles en 2018. Rappelons que la Fondation des maladies de l'œil a pour mission de financer la recherche, de prévenir la cécité, de promouvoir la santé visuelle et de sensibiliser aux dons d'organes et de tissus. Pour en savoir plus, www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Le dernier combat d'un médecin atteint d'une maladie grave. Atteint de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, un médecin de Québec s'engage dans son plus grand et dernier combat en prêtant son corps à la science dans l'espoir de trouver un traitement à cette maladie dégénérative qui reste incurable et qui fait face à un manque criant d'investissement selon lui. Malgré tout, le médecin qui s'est auto-diagnostiqué en 2014 participe à un sixième projet de recherche à la clinique SLA du CHU de Québec. « Je ferai de la recherche tant que ce sera possible, mais mon espérance de vie est presque dépassée. Je suis chanceux d'être encore en vie », indique avec résilience le médecin de 57 ans, maintenant retraité en raison de la maladie. Il teste présentement un traitement expérimental à base de racines de plantes indiennes découvert par un chercheur de Québec qui a obtenu des résultats positifs sur des souris. Il devrait aussi tenter le Pimozid, médicament utilisé depuis 50 ans pour traiter la schizophrénie, malgré les effets secondaires importants qu'il pourrait entraîner, dont un malaise généralisé du patient. Des scientifiques du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal ont récemment découvert qu'il pourrait ralentir la maladie. Après avoir écrit à ses 1549 patients qu'il a traités tout au long de sa carrière pour leur réclamer de l'aide, le docteur Jean-Pierre Canuel a réussi à amasser plus de 60 000 $ pour la Société de la SLA du Québec, un montant record jamais vu pour une seule personne. Il s'est par ailleurs assuré que tous les fonds seraient uniquement réservés à la recherche. À la Société de la SLA du Québec, on investit actuellement 60 % des fonds pour l'aide aux patients et 40 % pour la recherche. Mais il faut que la priorité soit la recherche. Il faut trouver un traitement, dit le docteur Jean-Pierre Canuel. Et je rejoins maintenant Stéphane Levac, directeur de CETAL, C-E, accent aigu, T-A-L. Bonjour, M. Levac.
Bonjour, Mme Denis.
Alors, qu'est-ce que le CETAL?
Bien, CETAL, c'est une entreprise adaptée qui est située dans la région de Lotbinière, donc à Laurier Station, mais on a aussi une usine à Victoriaville. CETAL, c'est un acronyme qui veut dire Centre d'emploi de travail adapté Lotbinière.
Et qui sont vos employés?
Bien, nos employés, c'est toutes les personnes handicapées de la région. Donc, c'est des gens qui ont malheureusement, avec leur handicap, une incapacité de trouver un emploi régulier dans le domaine manufacturier ou autre. Donc, nous, CETAL, on est une entreprise privée, mais sans but lucratif. On est un organisme de bienfaisance. Et on trouve des emplois, on développe des secteurs d'activité pour aider ces gens-là à travailler à tous les jours.
Et comment vous procédez pour faire votre recrutement?
Bien, le recrutement passe beaucoup quand même. On doit faire certains affichages, mais c'est quand même nous, notre structure est financée par Emploi Québec. Donc, c'est par le Centre local d'emploi que les personnes handicapées vont se diriger et vont être dirigées par les services externes de main-d'œuvre, qui sont des organismes qui s'assurent que la personne handicapée répond bien au programme d'Emploi Québec que nous réalisons.
D'accord. Et puis, CETAL inaugure sa nouvelle usine à Victoriaville. Dans quoi se spécialise-t-on dans votre nouvelle usine?
Dans notre nouvelle usine, on est spécialisé dans la fabrication de harnais électriques. Donc, les harnais électriques sont du filage électrique, dans le fond, qui servent dans les véhicules automobiles ou dans les autobus. Notre gros client est Microbird, justement, dans la région de Drummondville. Donc, ces filages électriques servent à allumer toutes les lumières dans le véhicule, les haut-parleurs, ainsi que tous les systèmes électriques.
D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à travailler à votre nouvelle usine? Avez-vous eu plusieurs CV?
Oui, bien actuellement, on est déjà une vingtaine d'employés, nous, dans la région. C'est une région qui était non desservie auparavant. Donc, CETAL est la première entreprise adaptée à desservir la région de Victoriaville. Donc, il y avait un très grand besoin
oui.
pour les personnes handicapées de la région.
Et quels sont vos objectifs de croissance?
Bien, nous, on croit, en fonction des besoins de la région, là, qui sont identifiés par les centres locaux d'emploi, qu'on pense que CETAL pourrait avoir une cinquantaine d'employés dans les 3-4 prochaines années.
Est-ce que c'est plus exigeant de diriger une entreprise adaptée qu'une entreprise qui ne le serait pas?
Non, vraiment pas. Les
non?
personnes handicapées ne demandent aucune exigence de plus.
Il y a des préjugés, vraiment... beaucoup, hein?
Oui, beaucoup de préjugés, mais c'est la même chose. Même au contraire, c'est très stimulant. Nos employés, bien sûr, sont très, très ils sont valorisés par leur emploi parce que des fois, ça fait plusieurs années qu'ils ont perdu un emploi ou ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas réussi à retrouver le marché du travail. Donc, ils sont très, très contents. Ils valorisent beaucoup leur emploi. Donc, pour nous, au niveau des ressources humaines, c'est très facile de travailler avec les gens. On vit les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise adaptée et on essaie de gérer nos employés aussi de la même manière parce qu'un des objectifs, c'est que les gens, après un certain nombre d'années, puissent retourner sur le marché du travail régulier s'ils y ont accès.
Mm-hmm. Et puis, la notion de compétition n'est pas tellement importante. Hein,
Bien, nous, bien sûr, chaque personne a sa limitation est différente. Donc, nous, on ne regarde pas la productivité individuelle, mais on travaille beaucoup sur développer des méthodes de travail collectives pour faire en sorte d'améliorer. Donc, on va travailler avec l'outillage. On va bien sûr adapter nos outils ou nos postes de travail en fonction de la limitation, que ce soit une chaise roulante ou que la personne ne puisse pas travailler debout toute la journée. Elle doit faire du travail assis debout. Donc, on va beaucoup travailler sur l'efficacité globale et non sur l'individu.
Et est-ce que vous avez envie d'ouvrir d'autres usines un petit peu partout au Québec?
Bien, actuellement, les entreprises adaptées, on est dans un réseau, donc il y a quand même une quarantaine d'entreprises adaptées. Je pense qu'on est rendu 44 entreprises adaptées dans toute la province du Québec. Il n'y en avait pas dans la région de Victoriaville. C'est pour ça que nous, on était une région très, très proche dans la Binière, donc on a ouvert cette usine-là. Mais il y a des services par les autres entreprises adaptées dans la majorité des régions.
Ah oui?
Et quelques régions, malheureusement, c'est toujours les régions un peu plus...
dites éloignées.
Des grands centres, oui, exactement, malheureusement, qui sont moins bien desservis, mais je sais qu'Emploi Québec travaille très, très fort actuellement à identifier ces régions-là et à mettre en place, parce que nous, Emploi Québec, nous a bien sûr accompagnés dans la création de cette usine-là, Victoriaville.
Ah oui, ça prend du soutien.
Oui, oui, on en reçoit bien.
Tant mieux. Alors, Stéphane Levac, directeur de CETAL, un grand merci, puis bon succès avec votre nouvelle usine à Victoriaville.
Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Denis.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Syndrome de Rett, des papas se mettent à nu face au handicap. Ils ont tous une fille atteinte de cette maladie génétique rare. Et pour parler de leur quotidien face au handicap, ils sont mis à nu en posant pour un calendrier qui défendra leur cause. Se mettre à nu, c'est ce qu'a fait, au sens propre du terme, un collectif de pères, membres de l'Association française du syndrome de Rett. Leur point commun, ils sont tous pères de petites filles atteintes par cette maladie génétique rare. Nous avons choisi une approche très décalée pour faire parler de notre cause, explique Daniel Motero, le père de Noémie, 12 ans. Ces modèles d'un jour ont posé pour un calendrier qui illustre leur quotidien face au handicap, le matériel médical, les dossiers administratifs, les activités adaptées, bref, toutes les difficultés liées à cette maladie. On peut vite s'enfermer sur soi-même lorsque vient le moment d'affronter le regard des autres. L'idée est de montrer que l'on n'est pas seul face à cette maladie, mais aussi de revaloriser le rôle de père dans la cellule familiale, confie Daniel Motero, à l'origine de l'initiative. L'association reconnue d'utilité publique réunit 900 familles et organise plusieurs fois par an des activités pédagogiques et des colloques exposant les avancées de la lutte contre le syndrome de Rett. J'ai la chance d'être dans un état d'esprit positif. Mon rôle est de le transmettre à ces familles un peu perdues. Qu'est-ce que le syndrome de Rett, R-E-T-T? D'origine génétique, le syndrome de Rett est un désordre neurologique grave touchant essentiellement les filles. La maladie se révèle entre 6 à 18 mois après la naissance, suivie d'une période de régression des acquis comprenant handicap mental, infirmité motrice sévère, troubles comportementaux, épilepsie. La maladie conduit à un polyhandicap rendant les personnes atteintes dépendantes à vie. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Nager avec des dauphins virtuels, une thérapie bien réelle aux Pays-Bas. Benno se baigne dans une piscine des plus banales, faite de carrelage et de chlore, lorsqu'il voit soudain passer sous ses yeux un dauphin lent, gracieux et virtuel. Un animal qui, même irréel, a des vertus thérapeutiques, en particulier pour les personnes en situation de handicap ou souffrant de maux chroniques. Il y a quelque chose de magique autour des dauphins. On pense à la joie, à l'entrain, au bonheur, à l'innocence, constate Margic Jolema. Et cela a même des propriétés de guérison. C'est de sa première rencontre avec le mammifère marin en 1993 qu'est née l'association Dolphin Swim Club, fondée avec son mari, consultant en entreprise Benno Brada. Leur premier projet de film sur les dauphins à visionner avec des lunettes de réalité virtuelle remonte à fin 2015. Puis en octobre, ils ont franchi un pas supplémentaire en créant un système permettant de visionner le film dans l'eau grâce à des lunettes de plongée auxquelles est fixé un smartphone dans un boîtier étanche imprimé en 3D avec du plastique recyclé. Lunettes de caoutchouc scotchées sur le visage et tuba en bouche, les nageurs peuvent observer où qu'ils regardent de grands dauphins et des dauphins à long bec tournoyés autour d'eux, tout en se laissant flotter dans l'eau tropicale d'une piscine aussi chaude que la mer des Caraïbes. Bercés par une musique aquatique, ils sont à la fois plongés dans un monde sensoriel bien réel et projetés dans un univers de dauphins totalement virtuel. Une expérience a priori unique au monde et une thérapie qui en est encore à sa phase test. Notre rêve était de trouver une alternative à la plongée thérapeutique utilisant des dauphins vivant en captivité, explique Benno Brada à des thérapeutes. Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, complétera au cours des prochains jours son déménagement entamé depuis septembre dernier. C'est maintenant au tour de l'hôpital Notre-Dame d'emménager vers les nouvelles installations du CHUM. Cette importante transition culminera le dimanche 26 novembre avec le dernier transfert de patients hospitalisés. Afin que l'opération se déroule de manière harmonieuse et sécuritaire, le CHUM fait appel à la collaboration de la population et lui demande d'éviter l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. Les personnes nécessitant des soins sont donc invitées à se rendre dans une clinique ou une salle d'urgence à proximité de leur domicile ou pour une aide immédiate à communiquer avec les services d'urgence au numéro 911. La liste des ressources offrant du 100 rendez-vous à proximité de l'hôpital Notre-Dame est disponible au ensemble-on-emménage.chumontréal.qc.ca/urgence-au-pluriel. Dimanche matin, dès 5 heures, l'urgence de l'hôpital Notre-Dame fermera ses portes et rouvrira à minuit sous la gouvernance du CIU3S du centre-sud de l'île de Montréal. Ensuite, à 7 heures, environ 175 patients hospitalisés seront transportés vers le CHUM à bord d'ambulances d'urgence santé et de véhicules médicaires selon leurs conditions médicales. Cette opération bien rodée devrait être complétée en après-midi. Merci à mes invités, Stéphanie Tremblay et Stéphane Levac. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis, c'est François Brodeur qui sera là pour vous accueillir lundi prochain. Moi, je vous retrouve mardi au Par Actualité et au Voix de service aussi. À bientôt. Portez-vous bien.